SILAB,
en partenariat avec Rennes Métropole,
présente
Jeunesse des possibles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Caroline, vous écoutez la Jeunesse des possibles, l'émission proposée par Rennes Métropole. Donc aujourd'hui, je suis avec Billy, salut Billy.
Salut Caroline.
Et puis nous accueillons Timothée, président de l'association Un Printemps en Asie. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et merci donc d'être avec nous. On avait envie d'échanger avec toi sur l'action de votre asso. D'autant plus que vous proposez au mois de mars, me semble-t-il, un festival de cinéma. Et que de janvier à mars, il n'y a qu'un mois. Bref, on voulait que tu puisses nous dire quelques mots sur Un Printemps en Asie. Alors pourquoi, quand, comment, où, etc. Avec Billy, donc on t'a préparé plein de questions. Et donc ça sera dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, on vous parlera de nos inspirations, de nos sujets du moment. Donc restez avec nous jusqu'au bout. C'est parti, 30 minutes de Jeunesse des possibles. Donc Timothée, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler de toi, nous dire en quelques mots ce qui t'occupe en ce moment et quel est ton parcours ?
Donc bonjour, je m'appelle Timothée Perrier. Je suis étudiant en quatrième année à Sciences Po à Rennes, donc en master qui s'appelle Culture et Industrie Créative. Et en ce moment, je suis occupé par l'écriture de mon mémoire sur la notion d'auteur au cinéma et l'organisation du festival qui nous prend beaucoup de temps.
D'accord. Oui, on doute pas que ça va prendre pas mal de temps. Du coup, on se posait aussi la question, c'était quoi exactement le but lors de la création de l'association ?
L'association a été créée il y a 3 ans maintenant. Elle est toujours organisée par des élèves de quatrième année de Sciences Po. Donc l'équipe est renouvelée chaque année. Donc la créatrice de la première édition, celle qui est à l'initiative du festival, elle s'appelle Ena Le Biavant, et son idée c'était de faire découvrir des cinématographies étrangères, donc cinématographies asiatiques, dont on n'a pas l'habitude de voir normalement dans les salles en France, ou vers lesquelles on ne va pas naturellement. Et donc l'idée aussi c'était de proposer une diversité de films, autant dans les genres que dans les sujets, pour essayer de faire découvrir du mieux possible en une dizaine de films une région, une cinématographie asiatique.
Ok, donc ouais, ça vous permet d'avoir un roulement finalement tous les ans, de pas proposer tout le temps.
Exactement.
Enfin, d'avoir une organisation un peu différente chaque année. Et du coup, sur le plan un peu plus technique, on se posait des questions concernant le fonctionnement de l'association. Par exemple, vous êtes combien à peu près à en faire partie ? Est-ce qu'il y a des rôles ? Est-ce que vous avez des responsabilités entre chacun d'entre vous ? Comment ça se passe ?
Alors oui, on est une équipe de 9 étudiants et on a organisé donc on est une association et on a organisé de manière tout à fait classique. C'est-à-dire qu'il y a donc un président. On a 2 vice-présidents, Mathis qui est plutôt chargé de la partie administrative et Marie de la partie artistique, donc communication, programmation. Et puis ensuite, à l'intérieur, on a un comité de programmation, un comité de communication. Et vu que le festival ne se limite pas au cinéma et le but étant de faire découvrir la culture un peu plus, de manière un peu plus large, au-delà du simple cinéma, on a une commission qui est chargée d'organiser d'autres événements. Cette année, ce sera des expositions photographiques. Et on l'appelle le pôle médiation culturelle. Voilà. Et on se réunit toutes les semaines et ça marche plutôt bien. Voilà.
Ça marche. Merci pour ces précisions. Et dans l'équipe, est-ce que vous avez tous des parcours d'engagement bien marqués ou bien est-ce que c'est une première où vous êtes rencontrés dans le cadre de Sciences Po et du coup, vous avez souhaité vous engager chacun individuellement dans cet asso par rapport à ça, quels sont vos profils en fait ?
Eh bien, on est tous, principalement la majorité, on est 9 et on est 8 en master culture et industrie créative, donc on a tous envie de travailler dans le milieu culturel plus tard, mais chacun a un domaine de prédilection. On n'est pas tous à vouloir faire du cinéma plus tard. Donc souvent, chaque année, c'est un groupe de deux ou trois personnes qui prennent l'initiative du festival et qui emmènent les autres avec eux. On a tous quand même un intérêt pour toutes les questions culturelles de manière générale, et on a tous envie de savoir et d'éprouver comment s'organise un festival.
D'accord. Et alors toi, plus personnellement, du coup, sur l'engagement, est-ce que c'est la première fois que tu fais partie d'une asso, que tu es président? Enfin voilà, comment ça se passe?
Alors, en deuxième année, j'étais vice-président du Bureau des Arts, qui est une autre association artistique à Sciences Po, mais plutôt pour les premières et deuxième années, en sachant qu'en troisième année, on va tous à l'étranger. Je suis arrivé à Sciences Po sans savoir ce que je voulais faire, et progressivement, je me suis rendu compte de ce qui m'intéressait vraiment. Le cinéma a été la voie vers laquelle je voulais me diriger, la voie avec laquelle j'aimerais travailler les sciences politiques en soi. Et donc, j'ai toutes les expériences, j'ai essayé de les orienter vers le cinéma. Donc, j'étais, en plus de président, vice-président du Bureau des Arts, j'étais aussi coordinateur du pôle cinéma et du pôle théâtre. Donc on avait fait des courts-métrages et tout ça. Et puis, de manière un peu plus professionnelle, en troisième année, j'ai eu l'occasion de faire des stages. Donc un stage de 6 mois dans une boîte de production en Amérique latine. Et puis un stage en Mayenne dans une association qui s'appelle Atmosphère 53 et qui est chargée de promouvoir et défendre le cinéma art et essai en Mayenne. Voilà.
Ok, donc ouais, un parcours d'engagement quand même important, pas mal d'expérience et tout, c'est chouette. Alors j'avais une autre question, mais tu as déjà un peu répondu, c'était pourquoi ce nom, Un printemps en Asie? Donc effectivement, c'est lié à la thématique de ce que vous proposez. Du coup, est-ce que tu peux nous dire l'année de création de l'asso et s'il y a une petite anecdote ou une histoire particulière par rapport au nom de cet asso?
Ça a été créé donc il y a 2 ans, là, c'est la troisième édition qui va avoir lieu en mars. Et je pense que le nom a été facilement trouvé dans la mesure où la première édition a eu lieu, a commencé le 21 mars, je crois, donc le premier jour du printemps. Et Ena Lebiavant, qui était donc la première présidente, avait une passion pour le cinéma asiatique. Donc ça s'est fait très simplement. Je crois qu'il y a pas, j'ai pas trop d'anecdotes sur le sujet.
Bah, en tout cas, c'est pratique pour retenir la date du festival. Voilà. Et puis c'est très joli, ça a un petit côté poétique sympa. Mmh. Ok, bah ça marche, merci.
Quel type d'œuvre cinématographique on trouve dans le festival finalement? Est-ce qu'il y a plusieurs genres? Tu le disais un petit peu en début d'émission, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, bah le but c'est pour nous de promouvoir une diversité dans les genres, donc on essaye de mettre du documentaire, de la fiction, de l'animé. Cette année, bon, avec l'Iran, le sujet cette année c'est les jeunesses persanes, donc c'est pas une région où il y a beaucoup d'animés, donc ça a été assez compliqué d'en mettre dans la programmation. Et puis dans le type de film, c'est quand même des films arrêtés, on va dire. Ça reste accessible. Mais c'est des films qui ne répondent pas au schéma narratif du cinéma de blockbuster américain, on va dire.
D'accord, je vois. Et du coup, hormis le côté cinématographique, tu nous as dit qu'il y avait des temps forts qui étaient organisés tout au long du festival, des tables rondes, des expositions. Qu'est-ce qui se passera exactement pendant ces temps forts-là?
Alors, donc on est en train de travailler autour de ça en ce moment, et il y aura normalement 2 expositions photographiques de 2 photographes iraniennes. La première qui devrait normalement avoir lieu sur le campus de Rennes 1, c'est une exposition de Ferry Malek Madani, qui est donc une productrice, une photographe, une réalisatrice iranienne qui vit en Belgique. Et l'exposition s'appelle Unexposed Wishes. Et elle a été à la rencontre de jeunes écolières, de jeunes collégiennes iraniennes, pour parler de leurs peurs et leurs désirs pour l'avenir dans la société iranienne. Et elle en a tiré une exposition photo qu'elle a réalisée avec elle. Et la deuxième, c'est encore en travail, mais ça va être avec une photographe iranienne qui s'appelle Zoreh Sadati, autour de la jeunesse de l'Iran aussi. Voilà.
Ok, donc ouais, ça va nous permettre de voir un peu ce qui se passe dans ce coin du monde qu'on a tendance à un petit peu oublier à cause du quotidien, à cause de ce qui se passe par chez nous. Mais du coup, c'est une super nouvelle que ce genre d'exposition photo se fasse. Est-ce qu'il y avait aussi des rencontres qui sont potentiellement organisées ? Par exemple, je pense à une équipe technique ou le cast de certains films ou des comédiens de doublage, peut-être. Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que ça va se faire ? Ou est-ce que ça s'est déjà fait ?
L'équipe du film, ça s'est jamais fait, si je me souviens bien. Mais on a déjà envie d'accompagner chacun des films parce que c'est des cinématographies étrangères. Donc, rien que pour la langue ou les sujets, souvent c'est difficile à aborder frontalement comme ça. Donc, on va accompagner chaque film avec des intervenants qui sont des spécialistes du cinéma iranien ou des spécialistes du cinéma asiatique. Voilà, souvent des enseignants qui travaillent dans le monde du cinéma mais qui sont pas nécessairement réalisateurs. Et on a l'envie aussi de faire venir des réalisateurs. Avec le contexte actuel, c'est quand même compliqué. Mais on sait normalement si on peut faire venir Ferhi Malek Madani, qui est donc la réalisatrice de l'exposition de photos et aussi réalisatrice d'un documentaire. Si on peut la faire venir, elle viendra à Rennes. Mais c'est compliqué de pouvoir prévoir et dire dès maintenant si on mettra à venir ou pas.
C'est sûr que sur le plan logistique, ça doit être quelque chose, c'est sûr. Mais on vous en voudra pas si c'est pas le cas.
Ouais, du coup, je rebondis. Ouais, c'est vrai que c'est super super chouette d'avoir ce type de proposition. Vous êtes en partenariat avec quel type de structure pour développer ce festival ?
Alors la première année, le festival, vu qu'il était encore tout jeune, il était éclaté sur plusieurs salles à Rennes. Mais depuis l'année dernière, ça a été centralisé au cinéma du TNB. Toutes les projections quasiment se déroulent là-bas. Et on est aussi en partenariat avec les ciné-clubs de Rennes 1 et de Rennes 2. On est en train de travailler à la programmation avec eux en ce moment pour pouvoir proposer une projection directement sur les campus aux étudiants. Et pour ce qui est des expositions et des conférences, s'il y en a, c'est dans divers lieux. Les expositions, il y en aura une à la galerie du Crous, en face du cinéma du TNB d'ailleurs, et l'autre sur le campus de Rennes 1. On est encore en train de choisir le lieu. Voilà, donc les trois lieux, ce sera le cinéma du TNB, le campus de Rennes 1 et la galerie d'exposition du Crous.
Ok, et du coup, je me demandais par rapport au public qui vient au festival, c'est plutôt des étudiants, plutôt des tout venants rennais. Enfin voilà, est-ce que même si ça fait, enfin vous êtes un nouveau festival qui prend vachement d'ampleur, donc c'est top. Mais est-ce que voilà, vous pouvez déjà avoir un recul par rapport à ça ?
Alors le public, bon déjà il y a beaucoup de cinéphiles qui viennent, c'est eux qui entendent parler du festival en premier lieu. Et après, ça dépend du film, souvent. Les films que j'ai pu aller voir les autres années, quand c'était un peu plus commercial, si je peux dire, ou grand public, on va dire, il y avait de tous les âges. C'est plus un peu plus compliqué, on va dire. C'est souvent des jeunes étudiants qui viennent ou des retraités.
Ça marche. Et alors Billy, tout à l'heure te demandait en termes d'organisation, voilà comment vous fonctionnez pour choisir les thèmes ou les œuvres ou le pays. Ça doit être super super compliqué. Comment vous faites pour faire ces sélections ?
Bah oui, c'est l'Asie, c'est très vaste. Ça va de à peu près l'Iran jusque les Philippines et l'Asie du Sud-Est. Donc la première année, ils avaient choisi les mondes chinois, donc il y avait Hong Kong, Taïwan et la République populaire de Chine. L'année dernière, ils avaient décidé de faire une traversée de l'Asie, et nous, cette année, on a décidé de décentrer un peu le regard et de se concentrer sur le cinéma persan, donc c'est le Tadjikistan, l'Afghanistan et l'Iran, beaucoup, qui est une grande cinématographie, qui est très reconnue, qui gagne beaucoup de prix dans les festivals internationaux. Et donc au départ, ça part d'une d'un désir personnel qu'on a parmi nous, d'une envie, de goût qu'on a. Et après, c'était tellement vaste. On a choisi l'Iran comme point de départ pour notre programmation parce qu'on avait certains cinéastes qu'on appréciait particulièrement en Iran. Et ensuite, c'était tellement vaste, il y avait tellement de films qu'il a fallu qu'on donne un premier cadre. Et on a choisi donc la jeunesse et son envie et son besoin d'évasion, surtout dans la période qu'on traverse. On avait envie de voir des jeunes qui évadaient les carcans. Donc c'est des carcans, une envie d'échapper à la monotonie, mais ça peut être aussi une envie d'échapper à des situations un peu complexes ou oppressantes.
Et du coup, ouais, parce que ça peut... Enfin, moi, je me dis, ce qui est intéressant, de partager un peu un contexte international comme là, ce qui est en train de se passer en ce moment, de pouvoir faire des parallèles aussi d'une jeunesse à l'autre. Je trouve ça chouette aussi comme moyen de communication, de pouvoir se rendre ou voir des films d'un autre pays où finalement les interrogations ou les envies, elles sont semblables. Voilà, du coup, je trouve ça super, super intéressant comme approche. Billy, est-ce que tu veux... t'as une dernière petite question avant la pause musicale ou est-ce qu'on écoute de la musique maintenant ?
Non, on va faire durer le suspense et je pense qu'on va écouter un petit peu de musique si ça vous va.
Ça marche, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
We'll be right back. Shannon, bye bye.
Jeunesse, t'es possible.
Bonjour aux auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Rebonjour aux autres. C'est Caroline et Billy. Vous écoutez La Jeunesse des Possibles, l'émission proposée par Rennes Métropole. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Timothée, donc président de l'association Un Printemps en Asie, qui vient nous parler de son asso, mais aussi du festival qu'il organise avec ses compères au mois de mars. Voilà. Donc Timothée, tu nous présentais l'équipe de l'asso, ce qui vous a motivé chacune et chacun d'entre vous à vous engager dans ce festival parce que, donc oui, chers auditeurs, chères auditrices, c'est bien de ça qu'il s'agit, un festival de cinéma très sympa d'ailleurs. Voilà, donc Billy,
oui,
je te passe la parole.
Très bien. Du coup, pour revenir dans le vif du sujet qu'est le festival et pour accueillir les nouveaux, nouvelles auditeurs, auditrices, on se demandait si Timothée, tu avais peut-être une œuvre en particulier qui te touchait toi ou celle qui t'a tapé dans l'œil tout simplement. Si tu pouvais nous faire un petit teasing, un petit résumé sans spoil pour savoir ce qui nous attend lors du festival.
Oui, il y aurait un film qui est un peu mon coup de cœur. Je me suis battu pour l'avoir dans la programmation et je suis très content de l'avoir. Ça sera probablement le film de clôture. Ça s'appelle L'Orphelinat d'une réalisatrice afghane qui s'appelle, alors pas que j'écorche son nom, Shahrbanu Sadat. Et donc c'est une jeune réalisatrice qui a commencé il y a maintenant 4 ans un projet, une pentalogie, donc c'est-à-dire 5 films basés sur l'autobiographie non publiée d'un de ses amis qui s'appelle Anwar, j'ai oublié le nom de famille, et qui retrace un peu l'histoire de l'Afghanistan, mais une histoire loin des mythes et de la vision misérabiliste qu'on pourrait en avoir en Occident. Et L'Orphelinat, c'est son deuxième film. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui trafique des billets d'entrée au cinéma pour aller voir des films indiens. Il est passionné de cinéma indien. Et il se fait malheureusement attraper par la police et enfermé dans un orphelinat. Et toutes ces grandes émotions, toutes ces grandes rencontres, tous ces grands amours ou ces grandes tristesses, il va les vivre au travers du cinéma indien. Et il y a une scène qui m'a marqué, et c'est quand il voit une jeune fille de sa classe dont il tombe immédiatement amoureux. Il se met à rêver qu'il est dans un clip à moitié d'un film bollywoodien avec des grandes couleurs, des grands vêtements, de la grande musique, et qu'il vit une histoire, une idylle d'amour avec elle. C'est un très beau film. La réalisatrice, elle a commencé avec le documentaire, donc quelque chose de très réaliste, très cru, et elle s'est dirigée ensuite vers la fiction. Donc ça fait un mélange des deux genres qui est assez vivifiant, énergique et qui donne envie de voir du cinéma. C'est un film d'amoureux de cinéma.
Ça donne vachement envie. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Caroline,
ouais,
mais j'ai envie de me précipiter.
Tu vends très bien. Tu vends très bien ça, ouais, effectivement. Et Timothée, on se demandait aussi par rapport donc à cette édition 2021, on le sait, dans un contexte un peu particulier. Tout d'abord, comment est-ce que vous vous sentez, l'équipe organisatrice? Est-ce que vous êtes tous super motivés ou bien, est-ce que vous avez du mal à trouver de la motivation du fait peut-être de quelques incertitudes? Quel est toi ton regard par rapport à ça?
Non, la motivation, on ne l'a jamais perdue. On a toujours été hyper motivés parce que on savait qu'il y avait des super films à montrer et on avait beaucoup de coups de cœur au final. L'Orphelinat, c'est pas le seul. Et on avait envie de montrer ces films et on avait tous envie d'organiser quelque chose de encore mieux que les autres années. Et la motivation, on l'a pas perdue. Par contre, on a peur on est dans une incertitude qui est pas très agréable. On sait pas si les salles de cinéma vont rouvrir ou si ça se trouve avec de la chance on fera la réouverture des cinémas et là ce serait incroyable. Mais c'est un climat d'incertitude qui est assez pesant parce qu'on peut pas se projeter et on est obligé de toujours prévoir un plan B et des fois c'est compliqué. Mais la motivation est toujours là. On a toujours envie de montrer les films et on les montrera coûte que coûte.
Super.
Ça marche.
Mais ce serait bête. Et moi, j'avais une petite question qui n'a absolument pas pour but de vous porter l'œil, vraiment pas. Parce que je pense qu'on est tous, du coup, maintenant très motivés à l'idée de ce festival. C'était, est-ce que vous imaginez potentiellement une version en distanciel au cas où les choses ne se passent pas comme prévu?
Oui, bah, on est obligé d'envisager cette possibilité-là. Pour l'instant, on s'organise comme si tout allait bien se passer et qu'on allait pouvoir aller dans les salles de cinéma, les présenter physiquement et organiser les expositions photos, tout comme si tout allait bien. Mais on l'évoque à chaque réunion, le fait que ça puisse passer en distanciel, et on prend toutes les précautions possibles pour pouvoir le passer sur les plateformes. Le cinéma du TNB a un partenariat avec une plateforme qui s'appelle la 25e heure et qui permet de diffuser des films comme si c'était une séance de cinéma, donc à des horaires précises, et avec la possibilité de débattre ensuite avec soit l'équipe du film, soit un intervenant extérieur. Donc cette possibilité-là, on l'envisage de plus en plus sérieusement. Et voilà.
Okay, donc il y a quand même toujours de l'espoir. Ça se fera quoi qu'il arrive,
oui.
De toute façon.
Oui.
Donc on se concentre là-dessus et fait Pygmalion, le positif attire le positif.
Et du coup, Timothée, toi qui es fan de cinéma, si jamais tu devais conseiller un film, ou quel est toi ton film préféré que tu pourrais conseiller aux auditeurs là pendant ces périodes-là, regarder, qui, voilà, qui te plaît, qui t'a marqué en dehors du festival?
En dehors du festival,
c'est une question très difficile.
Ouais.
Je suis désolée.
Je dirais le dernier film qui m'a marqué. Question très très difficile.
Bah, si tu veux, ce qu'on peut faire, eh ben ça peut tout à fait se retrouver dans le podcast. Donc voilà, pour les auditeurs et auditrices qui souhaitent découvrir le film Coup de cœur de Timothée, vous n'aurez qu'à lire le podcast et puis voilà, on l'indiquera à cet endroit-là. Et alors, moi j'ai une toute dernière question. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos concernant le festival?
Alors,
vous avez une page Facebook
Oui, bah on a un site internet dont on va bientôt changer le graphisme. On travaille avec la même graphiste depuis la première édition et on va dévoiler la nouvelle affiche bientôt. Donc le site internet d'abord, ensuite une page Facebook et surtout une page Instagram sur laquelle on est très actif et qui s'appelle Festival UPEA.
On prend note, de toute façon toutes ces infos se retrouveront dans le podcast, je prends bonne note. Et moi aussi, dernière question, est-ce que vous avez une tarification du festival? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant?
Alors si le festival se déroule en présentiel, le tarif, c'est un tarif unique au TNB de 5 euros. Et cette année, on a décidé, pour aider les étudiants, de faire un tarif applicable à tous les étudiants sur présentation de la carte à 4 euros. Voilà.
D'accord. Délicate attention. Eh bien, merci beaucoup, Timothée, de nous avoir accordé de ton temps. C'était super intéressant comme émission. Nous, on se donne rendez-vous sur le podcast où on mettra absolument toutes les infos qui se sont dites, là où vous pourrez retrouver le festival. Et également, comme on se l'est dit, l'inspiration de Timothée. Il est maintenant temps de passer à la toute dernière partie de l'émission avec Caroline. Il me semble que tu voulais nous parler d'un sujet, et c'était en rapport avec l'opéra.
Oui, tout à fait. Alors, ça va être très, très rapide. C'est la Fabrique de l'Enchantement. Alors, chaque année, l'Opéra de Rennes propose des visites à plus de 5000 élèves d'école et de collège. Bon, là, dans le contexte, c'est parfois un peu compliqué de mettre en place ces visites-là. Mais l'Opéra a quand même souhaité pouvoir faire visiter à qui veut l'opéra. Donc voilà, je vous invite, et là encore je le mettrai dans le podcast, à aller regarder la Fabrique de l'Enchantement, qui est une vidéo YouTube qui ouvre les coulisses de l'opéra de Rennes. Voilà, à tout le monde, donc très très chouette. Et puis juste aussi pour dire que l'opéra propose des spectacles en distanciel, voilà, donc encore une fois, n'hésitez plus si jamais vous voulez découvrir ou redécouvrir certaines œuvres ou certains certains spectacles. Voilà, donc tout sera mis sur le podcast, mais évidemment, vous pouvez vous rendre aussi sur le site de l'Opéra de Rennes. Voilà, c'était le petit partage que je voulais vous faire. Et toi, Billy, on me dit que tu voulais nous parler d'un sujet donc, qui n'est pas tellement abordé. Et c'est vrai que c'est un peu un pas de côté par rapport au sujet qu'on traite habituellement ici. Mais bon, les pas de côté, parfois, ça fait du bien. Donc, tu voulais nous parler de vulgarisation. Alors, tout d'abord, pourquoi ce thème ?
Eh ben oui, Caroline, non pas dit vrai. Mais alors, pourquoi ce thème ? En fait, c'est relativement simple. Aujourd'hui, on le sait, on se rend compte, les temps sont vraiment difficiles à gérer, particulièrement pour les étudiants et étudiantes. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, c'est quand même une vraie, vraie galère pour rester focalisé sur ses études, alors qu'on sait qu'on n'a rien d'autre pour se distraire, finalement, et qu'on n'a rien de plus qu'une purée pour en guise d'avenir. Et donc c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là, parce que ça m'a semblé pertinent d'essayer de donner du contenu à nos élèves en pleine révision, avec en prime peut-être un petit peu de réconfort, en gardant quand même un apport en connaissances, sans perdre le fil de l'apprentissage, mais avec peut-être un peu de douceur en plus, et quand même l'objectif de donner un petit coup de boost en termes de sérotonine, parce que ça ferait pas de mal, et peut-être même une tranche de rigolade, je sais que ça peut arriver avec la vulgarisation. Mais du coup, au juste, qu'est-ce que c'est la vulgarisation ? En fait, c'est simple. Bon, déjà, il ne s'agit pas de l'art d'utiliser un vocabulaire familier, même si j'avoue qu'il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Vulgariser, en fait, c'est le fait d'apporter des connaissances techniques au public le plus large possible, public d'initié ou non, en simplifiant ces mêmes connaissances. Donc, pour faire simple, vulgariser, c'est rendre un truc compliqué et impossible à comprendre si tu n'as pas les bases du truc, en un truc que même ton petit cousin pourra intégrer. Et je me rends compte à l'instant en disant ça que je viens de vulgariser la vulgarisation, et ça, je trouve ça particulièrement top. Mais voilà, du coup, un truc qui est bien avec la vulgarisation aussi, c'est que c'est adaptable dans tout, absolument tous les domaines possibles, dès lors que la personne qui en use sait de quoi elle parle, bien sûr, est très important là-dessus. Donc elle peut être scientifique, elle peut être historique, ça peut être artistique et déployable sur tous les supports possibles et imaginables également. C'est vraiment un truc hyper flexible. Mais ici, je ne m'attarderai pas sur la télé parce que ce n'est pas le média le plus important pour les jeunes. Et on a déjà tous vu un C'est pas sorcier qui était par exemple un des premiers exemples de vulgarisation en France, du moins. Mais voilà, donc en termes de support, on a des bouquins, par exemple. Je pense notamment à la série Pour les nuls, qui est pas mal connue. Mais ça peut aussi être support auditif. On a des podcasts comme par exemple Restons Polis, qui traite des drames et des scandales de la politique, ou encore Sixième Science, donc animé par des journalistes du 20 minutes et de Science et Avenir, qui nous invite à allumer nos neurones. Et bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, donc c'est que ça doit marcher. Mais je pense qu'en termes de vulgarisation, le plus intéressant reste celle qui se trouve sur YouTube, parce que ça mêle l'audio et le visuel. Et aussi parce que YouTube, c'est quand même l'un des médias les plus utilisés par la jeunesse, et c'est l'un des médias les plus diversifiés aussi. On trouve de tout et n'importe quoi sur YouTube. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, je vais faire un vrai coup de promotion, puisqu'à titre personnel, il y a des chaînes YouTube que je m'apprête à vous conseiller qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé et qui m'aident encore énormément dans mes cours et dans mes révisions, ou même juste pour satisfaire ma culture et ma curiosité. Ça marche aussi. Et voilà, et il faut juste pas que je mette de dire que les personnes que je vais citer, qui font un travail quand même monstre, ne disent pas n'importe quoi, donc c'est quand même relativement fiable, pour reconnaître quelqu'un qui vulgarise bien, il faut se rendre dans la description des vidéos, et en général tout le monde le dit en début de ces mêmes vidéos, qu'il faut croiser ses sources, mettre les liens de leurs sources dans la description des vidéos, et c'est important de le faire, histoire de savoir que voilà, c'est pas n'importe quoi qui est dit, c'est quand même crédible. En termes, par exemple, de vulgarisation historique, on peut citer des chaînes comme C'est une autre histoire, donc qui est animée par la brillante doctorante en histoire, qui est désormais historienne d'ailleurs, et vidéaste Manon Bril, de son pseudo, super jeu de mots, qui nous parle entre deux blagues potaches d'antiquité, plus généralement d'iconographie, avec un rythme qui est vraiment hyper maîtrisé, c'est super punchy. Et donc les émissions qu'elle propose sont carrément très, très actuelles et hyper instructives. Ça vaut vraiment le détour. Elle fait des villes au détail, elle fait des tu vois le tableau. Donc elle parle ouais, de notions, d'histoire de l'art. C'est vraiment complet, vraiment top. Hormis ça, on a Charlie Danger, de son vrai nom cette fois, et dont la vulgarisation, bah, c'est carrément le métier en fait. Et sa chaîne YouTube se nomme Les Revues du Monde, et dedans elle aborde plein de sujets sous-jacents à l'histoire. Je vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais pour donner une petite idée, si un jour vous souhaitez savoir comment momifier quelqu'un, bah sachez que le musée du Louvre l'a invité en son sein pour tourner une vidéo sur le sujet et que la vidéo est vraiment top. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez rigoler en apprenant plein de trucs super cool. Plus globalement, pour ce qui est de l'histoire et de ses disciplines, vous pouvez jeter un coup d'œil à ces quelques chaînes que je vais vous citer parce que pas le temps de faire un récap complet de tout ce qui se trouve. On a des chaînes comme Passé Sauvage, Nota Bene, Parlons Histoire, avec un Y, donc Y-Histoire, ou encore Doc Seven, ou bien énormément d'autres. Je vous invite d'ailleurs à nous faire part des chaînes que j'ai pas citées pour que je puisse les mettre dans la description de l'émission, pour que tout le monde puisse voir de quoi il en retourne. Donc voilà, je tourne la page de l'histoire pour passer à celle de la science avec un grand S et tout ce qu'elle implique, bien sûr. Et donc on est nombreux, nombreuses à baver devant le docteur Nozman qui nous propose depuis près de 10 ans des expériences chimiques et physiques, des ouvertures de géodes aussi, en passant par des présentations d'objets farfelus aux propriétés plus qu'étonnantes en termes de physique. Nozman, c'est aussi du débunkage d'idées reçues sur tout un tas de sujets, que ce soit la santé mentale, la paléontologie, vraiment très éclectique, avec une série de vrais ou faux, c'est le nom de son émission, et vraiment n'hésitez pas à y faire un tour pour savoir plein de choses, finalement c'est vraiment le but de ce que je suis en train de raconter. Il y a aussi Syllabus, une chaîne tenue par la biomécanicienne Viviane, qui nous invite à nous intéresser à la science dure. Et donc en la regardant, vous aurez enfin une réponse à toutes les questions existentielles que vous posez, comme par exemple, à quoi servent les motifs sur le papier toilette? Pourquoi les ouvertures faciles ne sont jamais faciles? Comment prouver à vos amis qu'ils ont tort? Ou bien, pourquoi est-ce si efficace de sortir le pied de la couette quand il fait chaud? Et tout ça traité d'une manière hyper, hyper consciencieuse, hyper scientifique. C'est vraiment top. Elle propose aussi des vidéos explicatives pour commencer soi-même à vulgariser la science. Donc des petits tutos, ça peut être très intéressant si jamais vous voulez sauter le pas. Et voilà, donc j'ai pas le temps de tout citer encore une fois, mais voilà, quelques noms en vrac de vulgarisation scientifique qui valent la peine d'être vus. On a Dirty Biology, Y Penser, Zeste de Science, Dans ton corps, Science Trash et des dizaines et des dizaines d'autres dont le travail valent vraiment le détour. Donc encore une fois, vous aurez plus de détails dans la description de l'émission. Et comme je me rends compte que j'ai plus beaucoup de temps et qu'avec Caroline, on envisageait de faire une émission un peu plus construite et un peu plus constructive, surtout sur le sujet de qui est la vulgarisation, en invitant peut-être des spécialistes, qui sait. Je vais juste me permettre de donner encore quelques noms de chaînes exploitables pour que tout le monde y trouve son compte, finalement, parce qu'il y a plein d'autres sujets qui peuvent être abordés. Mais voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui. Donc on a par exemple Sirius North qui traite de la philosophie, notamment la pop culture, qui est très utile pour le bac notamment, que moi j'utilise beaucoup en tout cas. Angle droit, pour ce qui est du droit, on a Télécrayon, c'est un peu la poubelle de la vulgarisation, tous les sujets y passent. En termes d'art aussi, on a Art Content pour rien, on a Regard ou les Muséonautes. Voilà, je mettrai vraiment beaucoup plus d'infos dans la description de l'émission. Et donc voilà, c'était bref, mais on arrive à la fin de cette émission. On remercie encore beaucoup Timothée d'avoir été là, d'avoir été un invité extrêmement qualitatif. Merci à Caroline, merci également à Aurélien de Silab, qu'on salue. Et du coup, comme d'habitude, on se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle émission. En attendant, profitez du soleil et de l'air frais. Autant que possible, du moins. Et bah, à bientôt.